Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Rien de ce qui m'arrive cet après-midi ne m'est habituel. Roulement de tambour, décoration, un habit de prince conçu par M. Azenine Alaya, grand couturier au talent de sculpteur. Mon élection a d'autant plus de valeur à mes yeux que vous avez toujours eu la sagesse de ne pas instaurer un quota racial, ethnique ou religieux pour être admis par nous. Comme mon confrère et compatriote sénégalais Léopold Senghor, élu à l'Académie française il y a 30 ans, je suis africaniste. Dans cet esprit, je dédie cette cérémonie à l'Afrique tout entière, à sa diaspora et aussi au grand homme qui vient de nous quitter, Nelson Mandela.
Cher Ousmane Sow, vous étiez naguère sur le pont des Arts, il suffisait de passer le pont et vous voici parmi nous sous la coupole et nous sommes heureux de vous accueillir. Sois le bienvenu. Merci.
Alors que beaucoup d'Africains et nombre de ses compatriotes regardent ces impressionnantes sculptures avec amusement et voyant la manifestation d'une folie douce, ce sont les Occidentaux qui le magnifient, qui voient dans ces gigantesques bonshommes des œuvres d'art. Ce sont eux qui célèbrent son travail et le font entrer chez les immortels, à l'Académie française. Remarquable parcours que celui de cet immigré sénégalais, arrivé lui aussi par bateau en France 56 ans plus tôt. Ousmane Sow. Ousmane Sow vient au monde le 10 octobre 1935 à Dakar, dans le célèbre quartier périphérique de Rebeus. Il est le sixième enfant d'une fratrie, celle de Mokhtar, qui va en compter 10. Son père, ancien combattant de la Grande Guerre, celle de 14-18, et Dior Diop, une sainte louisienne. Même si le jeune garçon naît dans une famille peule où les gestes de tendresse sont rares, où la règle est la maîtrise de soi, le poule à goût, il entretient néanmoins une relation fusionnelle avec son père.
Quand j'étais petit, je dormais sur son ventre. Et ensuite, âgé, j'étais constamment à côté de lui quand il allait voir ses copains. Je l'accompagnais et quand les copains le recevaient, alors qu'au Sénégal, c'est très difficile, je peux dire, même en Afrique, qu'un gosse soit avec les adultes. Mais lui, il m'a laissé. C'était vraiment l'apprentissage, l'école de la vie.
C'est dans ce cadre plutôt convivial qu'Ousmane Sow va aller à l'école. Une ambiance enjouée où, malgré la pauvreté, il est heureux, jouant avec ses copains et courant sous la pluie pendant l'hivernage. À partir de l'âge de 7 ans, Ousmane entre à l'école française, en même temps qu'à l'école coranique. Il y apprend les poèmes de Victor Hugo, entre autres.
Victor Hugo, c'est... Après mon père, c'est l'homme qui m'a le plus marqué. Mais d'abord, parce que je l'ai connu tout jeune. Après la bataille, c'était dans nos programmes. Il y a de l'héroïsme, il y a de l'humanité, il y a tout ça.
Vous connaissez encore par cœur mon père, ce héros?
Enfin, des bribes.
Des bribes?
Oui. Mon père, ce héros, sourire si doux, suivi de son hussard qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourir à cheval, soit d'une bataille.
C'est parti.
C'est vrai.
Il y a des bribes, simplement.
Ah ben, ça remonte à plus de 60 ans, là, bien. Ah ben, presque.
S'il s'en souvient 60 ans après. Il faut dans le même temps dire que Ousmane, jeune garçon, n'est pas un élève particulièrement travailleur. Il est paresseux et préfère les cours des travaux manuels. Il rapporte de la plage des blocs de calcaire échoués et les taille. C'est le commencement.
Mais le commencement, c'est l'école primaire, cours préparatoire avec un instituteur qui aimait l'art et qui nous en faisait faire. Il y en avait qui faisaient des maquettes, d'autres... des dessins, d'autres des sous-verts. Et c'est comme ça que tout est parti. Et des sculptures aussi. Et c'est comme ça que tout est parti.
Ousmane Sow est conforté dans cette entreprise par un fait important à ses yeux. L'instituteur a choisi une de ses sculptures qu'il a placée sur le haut de l'armoire dans la classe. Pour l'élève paresseux qu'il est, quelqu'un dont l'œuvre trône sur l'armoire de la classe ne peut être un cancre.
Fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be.
L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront.
En Europe donc, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Un conflit qui va toucher l'Afrique sollicitée par la métropole, mais également par les forces libres du général de Gaulle. Ousmane Sow a 7 ans lorsque le Sénégal est lourdement touché à son tour par cette guerre qui oppose dans un premier temps les vichistes loyalistes aux forces libres du général de Gaulle qui refusent de se plier à l'ordre nazi.
Je pense que c'est venu parce qu'il y avait le gouvernement vichiste de Boisson. Bon, je ne l'ai pas pu dans l'histoire, mais dans la réalité, parce que Boisson...
Vous l'avez vécu ?
Nous, on le connaissait, parce qu'on savait qui il était. Et je pense qu'il y avait un différent entre De Gaulle et Boisson, De Gaulle comme Boisson et les Anglais. Et il y a eu des tirs au large de Dakar. Mais nous, on a, si je puis dire entre guillemets, on en a bénéficié, parce que Boisson a riposté. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Et on a été, il y a eu pas mal de bateaux de coulée et pas mal de morts également dans civil. Mais disons que c'était une époque assez douloureuse pour un gosse de 7 ans de voir comme ça. Bon, c'était pas des cadavres amoncelés, hein. On en voyait comme ça des gens qui étaient arrêtés dans leur élan. Par un éclat d'obus ou quelque chose comme ça.
Dakar va donc être le théâtre de cette guerre qui divise aussi la France.
J'avais 7 ans et puis on ne nous avait pas du tout prévenu. Je me rappelle toujours, comme si c'était hier, c'est un avion, ce qu'on appelle les broussards, là, c'est-à-dire les petits avions à hélice. Je vois toujours qui avait sous son aile une sorte de phare. Et qui a déversé des tracts. Donc nous, en tant que gosses, on a quitté la véranda puisque j'habitais une très grande maison. Et là, à peine les tracts touchaient le sol, que les bombardements ont commencé. Et c'était des tracts qui nous avertissaient que il y avait un bombardement imminent.
Ce conflit dont il ne comprend pas vraiment les raisons et les enjeux va évidemment bouleverser la vie du jeune garçon. Au-delà de la famine qu'elle suscite et qui l'oblige à devenir l'intendant de la maison familiale, le préposé à la distribution des vivres aux familles du voisinage, c'est l'insécurité née des bombardements qui va décider le père Mortard à mettre à l'abri sa famille. Il va installer sa femme et ses enfants à Saint-Louis, chez sa belle-mère, tout près du célèbre pont Fédèrbe. Il retourne, lui, vivre à Dakar.
C'est mon père qui, pour nous protéger, nous a amenés d'abord... à 70 kilomètres de Dakar, Thiès, et voyant que quand même le blocus était toujours là et qu'on risquait de reprendre, eh bien, il nous a amenés à Saint-Louis. Mais lui était resté à Dakar.
Oui, c'est ça, donc la séparation avec votre père.
La séparation, oui, d'un élément pour moi qui était très, très, très puissant, qui était mon père. Mais comme il avait fait la guerre 14-18, bon, il connaissait cette ambiance-là. Mais nous, on n'avait pas vu, moi, l'image que j'avais... C'est quand il nous a mis dans le train, mon frère et moi, puisque à l'époque on était deux ou trois, eh bien c'est l'idée que bon, il allait peut-être subir le sort de deux ou trois personnes que j'ai vues comme ça étalées. Donc, et ça a été une crainte et une douleur extraordinaire.
Le jeune Ousmane, éloigné de Dakar, découvre sa grand-mère. pauvre, mais issu d'une famille de nobles lignées guerrières, à laquelle appartient également son cousin Lakdior, qui fut le premier à avoir combattu la colonisation en Afrique de l'Ouest. Sa grand-mère, Dior Diop, personnage mythique qui s'enferme quotidiennement dans un enclos en bois, avec son boa, à qui elle donne à manger et parle. De longs tête-à-tête qui intriguent le jeune garçon.
Reims, c'est le nom de la justice. Berlin est le nom du châtiment. Deux jours après les signatures de Reims, le maréchal Seder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Lyukov à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général Delattre de Tassigny, venu représenter l'armée française. Et c'est là qu'arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Lyukov et les alliés d'un côté, de l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumm. Drame à deux voix. Lyukov demande, êtes-vous prêt à signer? Keitel n'a qu'un mot, ya. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Et soudain, un silence énorme couvre l'Europe. Les canons se sont tus. Et ce silence s'emplit d'une rumeur, celle du pas des soldats, de ceux qui vivaient casqués depuis des années et qui simplement, humblement, ont fait la guerre avec leurs pauvres mains et leurs pauvres vies. Et derrière cette rumeur, il y a des présences sensibles, des visages familiers dont on fera des images saintes et des légendes, les visages de ceux qui ont joué la victoire pour les hommes de leur pays. Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant, et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël, la naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Et une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Si partout en Europe l'on célèbre la victoire des Alliés, cet armistice qui met fin au conflit marque également le retour à la maison pour le jeune Ousmane Sow. La guerre est terminée et son père vient chercher son fils à l'école. C'est le moment du retour à Dakar. Le jeune garçon retrouve la cour commune avec ses nombreuses familles. Il retrouve aussi le vieux Mokhtar Sow, toujours aussi sévère et avare de compliments.
Mon père, je lui ai amené des notes. Et à chaque fois, je le vois, à chaque fois, il regardait, ben, je n'en attendais pas moins de toi. Et au certificat d'études, je m'étais dit, bon, là, quand même, il va me féliciter. Je viens parce que le certificat d'études, à l'époque, c'était quand même le sésame pour pas mal de choses. C'était pas le certificat d'études d'aujourd'hui. J'arrive, je lui dis, ben voilà, papa, j'ai mon certificat d'études. Ben, pareil, je n'en attendais pas de moins de toi. Et à chaque fois, tout le temps, c'était ça. Alors, ça m'agaçait, mais maintenant, je vois la valeur de ce que ça représentait, parce que on ne peut pas témoigner une confiance aussi forte. Je crois que c'était ça. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été fier de... Et je pense qu'il l'est, puisque je crois en Dieu. Je pense que là où il est, il doit l'être également.
Ousmane Sow est sollicité dans ses années de braise, où les mouvements nationalistes, après avoir aidé la France à recouvrer sa liberté et sa dignité, réclament à leur tour leur indépendance. La métropole fait appel à ces jeunes dans les colonies pour aller combattre ces nationalistes. Mokhtar, le père d'Ousmane, qui s'est déjà battu pour la France pendant la Grande Guerre, celle de 14-18, et qui souffre encore des séquelles du gaz inhalé à Verdun, convainc son fils de ne pas se laisser enrôler. Il s'agit cette fois-ci, dit-il, non pas de défendre les couleurs de la mère patrie, mais de se battre contre d'autres qui exigent juste qu'on leur donne leur liberté. Pas question donc de participer à cette guerre. Ousmane Sow, qui vient d'obtenir son brevet commercial, écoute son père, qui vient d'effectuer son pèlerinage à la Mecque. Il a 17 ans. Mais c'est un autre événement qui va l'amener à quitter son Sénégal natal. La mort de ce père.
J'ai voulu vraiment faire un break. Parce que c'était très douloureux de le perdre à 22 ans. Et son image était un peu partout dans la maison et dans la rue et tout. Il fallait vraiment rompre.
Il fallait rompre. Et malgré l'amour qu'il éprouve pour sa mère, il décide de partir. Loin. Direction la France. Il embarque dans un bateau, le Djenné. Un cargo à destination de Marseille. Un voyage de plusieurs semaines. Il voyage en quatrième classe. Il faut dire qu'il n'a rien en poche. Ce qui, bien sûr, rend la traversée encore plus compliquée.
Je suis venu sans le sou, j'avais 500 francs. Mais il y avait aussi que je ne connaissais personne. Et c'est là que je me suis débrouillé. Ça a été une partie qui était difficile, mais qui m'a fait connaître aussi vraiment la générosité. J'ai été emprise. Dès mon arrivée avec la... Je raconte l'histoire de cette boulangère qui nous promettait que du pain et du chocolat chaque jour, qu'elle ne pouvait pas nous donner de l'argent, mais qu'elle pouvait nous assurer cela.
Cette générosité, cette gentillesse des gens va marquer le jeune Ousmane qui, sans le sou, parvient tout de même à manger. Cette boulangère qui lui offre un pain au chocolat. Sur le conseil d'un autre immigré, en cette période d'hiver, plutôt froide, il se rend au commissariat de la rue Soufflot à Paris. Il demande qu'on lui donne une cellule et une couverture pour qu'il y passe la nuit. Les policiers vont le faire et même lui offrir une tasse de café chaud le matin. Malgré leur sympathie, ils ne peuvent l'héberger plusieurs nuits d'affilée. Alors ils demandent à leurs collègues des autres commissariats de bien vouloir l'accueillir.
J'imagine mal quelqu'un aujourd'hui, même avec... sa carte de séjour, aller au commissariat pour dire « Monsieur, ouvrez-moi une cellule pour que je puisse y dormir. »
Des gestes de générosité qui vont amener le jeune et colosse immigré fraîchement débarqué dans la métropole à aimer passionnément la France. Cela ne signifie pas que les choses soient simples pour lui.
Les gens de mon âge qui sont venus à cette époque-là à Paris n'ont pas été figurants, mais ont fait la plonge, ont travaillé au hall, ont fait différents métiers. Parce que, étant donné qu'on était non boursiers, il y avait deux choses, ou alors être entretenu par soit des homosexuels, ou alors de vieilles dames avides de sensations. Comme ça ne me tentait pas, j'ai fait comme tous les autres copains qui ont retroussé leurs manches pour faire du n'importe quoi, ce qui s'offrait à eux.
Comme l'écrasante majorité des jeunes Africains qui débarquent dans la capitale française, en cette fin de la décennie 50, Ousmane Sow, pour survivre, doit exercer les petits métiers dont le plus célèbre, après éboueur, est garçon.
J'étais venu, j'étais diplômé du Sénégal quand même. Donc j'arrive et je me dis, au lieu d'être garçon de salle, je vais essayer de gagner ma vie autrement. Oui. Oui, de me rendre plus utile, parce que garçon de salle aussi est utile. Et là, quand on me l'a dit, ça m'a un peu déboussolé. Mais j'ai tenu quand même, je me suis dit bon,
je commence par là, le temps de prendre mes marques. Le jeune homme n'entend pas faire carrière dans la restauration. Il a d'autres ambitions. Pas dans la sculpture, non. Dans un tout autre secteur où il va connaître un réel succès. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie d'Archives d'Afrique consacrée au sculpteur de renom Ousmane Sow. À très vite, restez à l'écoute.
Les Archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
les gens de mon âge qui sont venus à cette époque-là à Paris n'ont pas été figurants, mais ont fait la plonge, ont travaillé au Halles, on fait différents métiers.
C'est donc naturellement que le jeune immigré arrivé du Sénégal en cette fin de la décennie 50 va se retrouver, comme beaucoup d'Africains, à faire le garçon de café à Paris. Il espérait pouvoir décrocher un boulot avec son diplôme. Mais malgré la générosité des Français qu'il rencontre, les choses ne sont pas si simples. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au sculpteur Ousmane Sow. Ousmane Sow va multiplier les petits boulots manuels. Polisseur de cuillères, mais il met trop d'énergie à les polir et il finit par les user. Alors, on le renvoie. Il va faire cuiseur de cornichons. Ouais, il décharge aussi des légumes. Ce grand gaillard, plutôt joli garçon mais timide, est également un grand séducteur. Il connaît sur le bout des doigts les chansons de Tino Rossi avec lesquelles il fait chavirer les cœurs des jolies françaises sur les ponts de Paris en s'accoudant au parapet qui surplombe les quais de Seine. Et son interprétation plaît beaucoup aux petites robes Vichy.
Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour.
La fille était sur une marche et je chantais les chansons de Tino Rossi jusqu'à ce qu'elle me dise, ah ben oui, vous avez une belle voix, parce que j'étais quand même timide. Je ne draguais pas comme ça facilement, donc il fallait qu'on fasse le premier pas. Je suis donc venu à Paris pour des études. J'ai d'abord commencé par le droit. Bon, comme je me suis aperçu que je n'avais pas la mémoire des chiffres, c'est en descendant de la rue Soufflot, puisque à l'époque, les facs n'étaient pas scindées comme c'est maintenant. Fac de droit, c'était la rue Soufflot. Je descends la rue Cujas. Et je vois École française de massage et d'orthopédie. J'entre, je demande combien de... Parce que je suis paresseux pour les études. Donc j'entre, je demande, on me dit...
Combien de temps ça
Combien de temps ça va durer? On me dit, à l'époque c'était 2 ans, maintenant je crois que c'est beaucoup plus.
Tout est toujours plus long maintenant, oui. De toute façon.
Donc j'ai été, je me suis inscrit, j'ai été, pour être dans le bain, j'ai été à Saint-Antoine. Mmh. Pour m'inscrire, pour être travailler dans les hôpitaux. Et comme je ne pensais même pas rester longtemps, j'avais envie de faire un peu d'économie. Et après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire infirmier?
Ainsi, Ousmane Sow est désormais infirmier. Mais le hasard va lui offrir la plus belle des formations. Attiré par une affichette, il s'inscrit à l'école de kinésithérapie dirigée par Boris Dolto, l'époux au doigt de fée de la fameuse pédiatre et psychanalyste. Boris Dolto est le père de la masso-kinésithérapie moderne. Rapidement, ce personnage va devenir une référence pour Ousmane Sow. La kinésithérapie va devenir une véritable passion pour lui. Il aime ce métier.
Les personnes dont je m'occupais, eh bien, avaient du mal. D'abord, ils étaient dans le coma. Notre souci, c'était qu'ils ne s'encombrent pas. Donc, il fallait absolument, dans le coma, qu'ils expectorent.
Oui.
Et puis, en plus, là, la rééducation respiratoire après. J'ai aimé ce métier comme j'aime aujourd'hui la sculpture.
...1960. La France, bousculée en Indochine et en Algérie, décide d'accorder l'indépendance à ses colonies d'Afrique noire. C'est l'ensemble des 15 territoires francophones de la communauté qui, l'un après l'autre, accèdent à la souveraineté internationale au cours de l'année.
Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine.
Proclame solennellement que le Tchad est indépendant et
donc une des plus grandes heures qu'ait connue votre histoire. L'ère coloniale est désormais révolue. La France tient aujourd'hui cette promesse. Voici l'indépendance du Gabon et le drapeau vivant de la communauté.
Ce soir, le Mali accède à l'indépendance.
Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant.
Voici l'indépendance du Congo et le drapeau vivant de la communauté.
Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta.
Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor accède à son tour à l'indépendance le 20 août 1960.
Monsieur le représentant, en cette année 1960, en cette année de l'Afrique, chaque mois, chaque semaine, j'allais dire chaque jour, se fait historique. En tout cas, pour nous, peuple sénégalais, elle restera.
Cette indépendance sonne pour Ousmane Sow comme un appel.
À l'époque, j'étais à l'hôpital Fernand Vidal. J'avais un poste puisque le premier poste de toxicologie, c'est-à-dire les intoxiqués. Un jour, le directeur m'a appelé pour me dire, ben voilà, vous avez le choix entre avoir la binationalité, ça ne sera qu'une signature au bas d'une page. C'était le seul choix que je ne pouvais ne pas faire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire la double nationalité. Je lui ai dit non, je renonce à ma nationalité française et je ne vais conserver que la nationalité sénégalaise. C'était évident. Et puis bon, il y a un peu aussi de romantisme qui était là. C'était
lié aux indépendances.
Aux indépendances, tout ça. Et depuis, j'ai toujours la nationalité sénégalaise, je n'en ai pas d'autre.
Même s'il se sent essentiellement sénégalais, même s'il renonce sans hésitation à sa nationalité française, il reste particulièrement attaché à Paris. Mais également à un homme, le général de Gaulle, qui selon lui a évité à l'Afrique une guerre d'indépendance. Il va même se porter volontaire pour aller combattre le carteron des généraux qui, d'Algérie, essaie de faire plier l'homme du 18 juin 40.
En 61, en avançant avec le putsch.
Contre le général.
Contre les généraux, là, ça l'a joué.
Les carterons, oui.
Où on recrutait des citoyens pour défendre Paris. Et j'avais donné mon nom, on m'avait dit, ne dormez pas cette nuit. Quand on viendra vous prendre, on vous donnera les armes. Et là, l'anecdote qui me revient, bon, maintenant ça me fait rire, mais avant je me disais, mais il faudrait quand même que tu arrêtes un tout petit peu avec les films de guerre. C'est que j'avais écrit une lettre d'adieu à ma mère. J'avais sous son lampadaire, j'ai eu un banc public comme ça, devant mon hôtel. J'écrivais une lettre que j'avais mise dans une de mes poches pour que s'il m'arrive quelque chose, on puisse l'enlever. Mais ça, je l'ai vu dans Iwo Jima. Mm-hmm. Je n'ai pas inventé, c'était un film de guerre. Mm-hmm. Iwo Jima, le héros mort, on trouve une lettre inachevée. Bon, mm-hmm. Je terminerai, je la verrai à la famille. Pour l'épisode de Dakar, c'est entre 65 et 68. Donc j'étais allé, je m'étais dit, bon, ici il y a des kinés, à Dakar il n'y en a pas, puisque j'ai été le premier.
Il est le premier kiné à s'installer dans son pays. C'est le grand retour au village natal.
C'est-à-dire, j'ai été 30 ans kinésithérapeute, je l'ai exercé en milieu hospitalier, je l'ai enseigné en France. J'ai ouvert un cabinet aussi en France avant de créer le service de rééducation de l'hôpital Le Danteka à Dakar.
Il revient avec sa femme, une infirmière française, et ses deux enfants. Pour la nouvelle nation indépendante, il s'emploie à créer le premier service de kinésithérapie de l'hôpital Le Danteka à Dakar. Le service manque de moyens. Alors, Ousmane Sow imagine pour la rééducation tout un appareillage avec des barres de fer, une poulie, des anneaux, des câbles, des haltères. Il faut dire que dans cette période, les temps sont difficiles financièrement pour Ousmane Sow. Le seul métier de kiné n'est pas suffisant pour joindre les deux bouts. Le salaire est dérisoire. Même s'il se passionne déjà pour la sculpture, il ne s'imagine pas en train d'en faire un métier. Alors, Il emprunte un peu d'argent pour acheter un champ à Sangalkam, dans la banlieue de Dakar. Il veut se lancer dans l'agriculture. Il engage des paysans pour travailler avec lui. Mais cette expérience est un cuisant échec. Il capitule.
Je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme de kiné, j'ai été voir notre professeur Dolto, qui est le mari de Françoise Dolto et le père de Carlos. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection, parce que c'était pratiquement, dans ce qu'il nous enseignait, un poète. Donc, en partant, j'ai dit, bon, j'ai allé le voir, lui faire mes aïeux. Et je suis monté le voir et il m'a dit, on a bavardé des choses, puisqu'il connaissait l'Afrique, il avait des amis là-bas. Il l'aimait aussi. Et je me rappelle au moment de partir, il me dit, mais vous savez qu'on m'a tué un ami qui s'appelait Fidabo Sizoko. C'était quelqu'un pour un enfant, vraiment tout ce qu'on peut redouter. Il avait des balafres, c'était un Mossi de la Haute-Volta, Burkina Faso maintenant, qui avait des traits qui partaient de la tempe jusqu'au menton et tout. Et en plus de ça, il avait une sorte de strabisme avec... mais vraiment quelqu'un qui faisait peur aux enfants qu'on était. Et il s'est mis à me parler de cet homme-là et j'ai eu une honte rétrospective. Parce que je me disais, mais cette personne-là... c'était le temps de l'AOF où on avait toute l'Afrique de l'Ouest qui venait à Dakar, puisque c'était là-bas le conseil. On les connaissait tous. Donc, vraiment, j'ai eu honte parce qu'il me l'a dépeint avec tellement d'amour, tellement de choses. Et quand je lui ai serré la main, il m'a dit, promettez-moi une chose, ne faites jamais de politique. Et là, je lui ai dit, vous savez, là, vous pouvez être tranquille, ce n'est pas mon ambition.
1968. Ousmane Sow, qui ne peut continuer de vivoter ainsi dans son pays, qui a du mal à s'en sortir à Dakar, reprend le chemin de la France. Il s'installe à Montreuil, dans la banlieue de Paris. Il travaille dans un studio de kinésithérapie qui lui sert en même temps de studio de cinéma. Il y réalise des courts-métrages, mettant en scène de petites sculptures animées qu'il fabrique lui-même. Entre deux consultations, il tourne image par image avec une caméra 16 mm qui se remonte avec une manivelle. Il est même étonné que ses patients qui voient ce bric-à-brac reviennent quand même. Mais il a un don dans le domaine de la kinésithérapie. Des mains de fée, disent certains. D'autres mettent également le magnétisme qui se dégage de sa personne en avant pour expliquer cette fidélité de certains de ses patients. C'est dans le même temps un père attentif pour ses deux enfants. Un papa très exigeant. Ousmane Sow, dans cette période, se passionne pour cette sculpture. Il fait de petits personnages pour ses films animés. Marina Sow, sa fille.
Vous voulez, nous, on l'a toujours vu, mais on l'a vu sculpter de toutes petites sculptures compte tenu de la taille des appartements et des maisons qu'on avait à l'époque. Quand on était en France, vous pensez bien qu'il n'allait pas sculpter un Victor Hugo de 1m30. Voilà. Donc à l'époque, c'était une passion. Il sculptait des petits, ce que nous, les enfants, nous appelions ces bons hommes. Il était quasi tout son temps libre, en fait, était là-dessus. Il était rarement sans sculpter. Il fallait quelque chose à malaxer, à triturer.
1980. Pour la seconde fois, Ousmane Sow reprend le chemin du Sénégal. Un retour qu'il veut définitif. Avec ses enfants et sa femme, Anne, c'est un nouveau départ. Marina Sow, sa fille.
Crème d'une exigence, mon Dieu. Mais à tout point de vue. Une exigence à tout point de vue, une éducation extrême, très stricte. Très, très stricte. Beaucoup de valeurs, beaucoup de... Voilà, on n'avait pas beaucoup droit à l'erreur.
Ousmane Sow ouvre un cabinet médical privé à Dakar. Il consacre également beaucoup de temps à sa passion, la sculpture. Mais il ne songe absolument pas à l'exposer. Il n'imagine même pas qu'il puisse en faire un métier. En famille, ce n'est plus vraiment le grand amour avec son épouse Anne. C'est le divorce en 1983. Ousmane se retrouve seul. Il a 45 ans. Il a désormais le temps pour s'occuper de ses sculptures. Il vit d'abord chez un ami. Puis il va prendre en location une petite maison dans laquelle il s'installe dans le quartier populaire de Grand Médine. C'est dans cet endroit qu'Ousmane Sow consacre plus de temps à son art. Des sculptures qu'il fait dans sa cour. Des géants avec une musculature d'athlète qu'il met en valeur en huilant leur peau et en la parant de signes peints. Il en fait un passe-temps.
Mais l'anatomie que j'ai apprise m'a aidé énormément dans le métier de sculpteur.
Ousmane Sow va commencer par le célèbre Nouba assis et le Nouba debout en 1984. Il s'appuie sur les photos d'un livre qui lui a été offert par son épouse Anne quelque temps plus tôt. Un ouvrage publié 10 ans plus tôt en Allemagne et traduit en français 2 ans après. Les Nouba de Kao, les hommes d'une autre planète, c'est le titre. Il est consacré à une population soudanaise antique, dont une poignée de descendants vivent toujours aux abords de la montagne Nouba. Ce livre illustré de photographies va inspirer Ousmane, qui se passionne également pour ce peuple. Il va donc donner naissance aux Nouba assis et Nouba debout. Un ami, Philippe Chamoin, animateur du Centre culturel français qu'il invite à découvrir, est sous le charme. Il le convainc de poursuivre, de ne surtout pas détruire ses œuvres comme il le faisait jusque-là. Il va même lui promettre de l'exposer, à condition qu'il réalise suffisamment de figures pour les rendre publiques. Ousmane, qui se sent réconforté, décide d'abandonner la kinésithérapie pour se consacrer entièrement à la sculpture. La kiné, c'est terminé, du moins sur les vivants.
Bon, je l'ai exercé en milieu hospitalier, je l'ai exercé en libéral et je l'ai même enseigné.
Oui.
Ouais. Donc, j'en avais pratiquement fait le tour. Vous savez, je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres métiers. En tout cas, heureusement que ça ne m'est pas arrivé encore dans la sculpture, puisque je continue toujours à douter. Mais j'en étais arrivé à un point dans la sculpture, dans la kinésithérapie.
Ne dites pas dans la sculpture.
Oui, dans la kinésithérapie, au point que quand quelqu'un me disait, vous savez, ce que vous m'avez fait hier m'avait soulagé, je ne dis pas que ça ne me faisait plus rien, c'était évident. Je savais ce que je faisais. J'ai déjà pas mal de réussites thérapeutiques. Ce n'est pas être orgueilleux que de le dire. C'était devenu de la routine. Il y a des maladies. Quand quelqu'un s'amène en quatre et que vous le remettez sur... Je pense que tous les collègues peuvent aujourd'hui, les anciens collègues peuvent le faire puisqu'ils savent comment le faire. Et c'était ça qui commençait à me peser. C'est-à-dire d'avoir la certitude que quand je...
Vous étiez assuré du résultat?
Quand je rééduque quelqu'un, eh bien, le plus souvent, je ne perds pas mon temps. Il y a des réticences. Il y a des personnes qu'on peut améliorer, mais pas guérir. Mais dans la majeure partie des cas, les gens s'en sortent vraiment soulagés parce que c'est notre métier. On le sait, on l'a appris, on l'a pratiqué.
En décidant ainsi d'abandonner son métier de kinésithérapeute, Ousmane Sow, à presque 50 ans, ne prend-il pas un gros risque dans un pays de forte tradition musulmane où la représentation du corps est interdite et la nudité plus encore? Fait-il le bon choix en le faisant ainsi dans son pays? Le destin est vraiment insondable, imprévisible, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous y retrouverez également tous les personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique dont nous avons parlé. Vous pouvez dans le même temps réagir comme vous le faites depuis longtemps sur notre page Facebook, la première sur notre antenne avec ses 595 000 amis. L'unique page Facebook Archives d'Afrique, je dois le préciser. Delphine Michaud, Olivier Raoul, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.